Sí, страшный. Vous pouvez présenter le monde, hein. Vous pouvez présenter l'orateur.
Donc, c'est le troisième et dernier cycle du séminaire sur le langage. Et donc, c'est Rav Goldstein qui nous fait l'honneur et le plaisir d'inaugurer ce troisième cycle avec un show, une conférence intitulée comment, Rav ?
Je ne sais pas comment vous l'avez appelé.
Bon, alors. C'est quoi, c'est la parole divine dans le langage humain?
Voilà, c'est ça, comme ça qu'on est.
Très bien.
Je crois que c'est quelque chose comme ça.
Bon, s'il vous plaît, on commence. Et...
Alors, je voudrais parler en fait de la différence entre la Torah de Moshe Rabbeinu et la Torah de Rabbi Akiva. Mais auparavant, vous allez distribuer une Gemara dans Menachot qui sera le centre, le pivot de ce que nous allons voir ce soir. Auparavant, je voudrais rapporter une Gemara qui se trouve à plusieurs endroits, en particulier dans Maseret Chagiga. La Gemara rapporte la chose suivante. La Gemara met en avant qu'il y a une contradiction entre deux psukim, deux versets du livre de Daniel. Les versets sont en araméen, donc je vous les donne tout de suite en traduction. Il y a un verset qui dit que le trône était en flamme, son trône était en flamme, et ensuite le verset dit: J'ai regardé, j'ai observé, et j'ai vu que des trônes, au pluriel donc, étaient dressés, et que le Atik Yomin, c'est un des noms d'Hachem, était assis. Et donc la question qui se pose, c'est: est-ce qu'il y a un trône, ou au moins ou deux trônes? Et la Gemara répond: oh, il n'y a pas de difficulté dans ce texte. En vérité, il y avait vraiment deux trônes. Un des trônes était pour Hachem, comme il est dit explicitement, et l'autre était pour le roi David. Comme on a enseigné effectivement dans une braïta, un texte, qu'effectivement il y avait un trône pour Hachem et un trône pour David. Divrei Rabbi Akiva. Parole de Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Yossi Aglini s'est adressé à Rabbi Akiva et il lui a dit: Akiva, Ad matai ata oseh shchina chol. Jusqu'à quand est-ce que tu vas faire de la shchina, de la présence divine, quelque chose de profane? N'est-ce pas? Comment est-ce que tu peux dire qu'il y a deux trônes, sans présenter comme deux, c'est-à-dire comme les deux trônes sont à la même hauteur, ils ont la même valeur, et tu dis de l'un qu'il concerne Hachem, et de l'autre qu'il concerne un humain, un être humain, même si c'est le roi David, c'est bien entendu d'un être humain qu'il s'agit, donc c'est profane. Il faut que tu dises autrement, il faut dire qu'il y a effectivement deux trônes, mais les deux trônes sont pour Hachem, l'un d'entre eux sert pour administrer la justice, et l'autre pour la tzedaka, un pour le din et un pour la tzedaka. Voilà ce que Rabbi Yossi a dit à Rabbi Akiva. Les deux trônes sont les trônes divins, mais sont des trônes qu'Hachem utilise dans des circonstances différentes. Et la Gemara se demande, est-ce que Rabbi Akiva a accepté la remarque de Rabbi Yossi ou non? Parce que Rabbi Yossi lui a dit, c'est autrement qu'il faut dire, mais qui nous dit que Rabbi Akiva a accepté ce que Rabbi Yossi lui a dit? Alors la Gemara répond, bien, je vais t'enseigner quelque chose et tu vas comprendre que Rabbi Akiva a effectivement accepté la remarque de Rabbi Yossi Aglili et qu'il a fait sien l'enseignement de Rabbi Yossi Aglili. En effet, il y a une autre braïta, un autre texte qui dit que de nouveau sur ces deux trônes, un trône était pour la justice et l'autre était pour la tzedaka, donc un pour le din, un pour la tzedaka, divrei Rabbi Akiva, présenté comme des paroles de Rabbi Akiva. Donc on voit bien que Rabbi Akiva a accepté, il a même intégré cet enseignement, il donne en son nom l'enseignement qu'il a reçu de Rabbi Yossi. Seulement ce qui est intéressant, c'est que quand Rabbi Akiva a dit ça dans le deuxième texte, le texte dit qu'à ce moment-là, Rabbi Elazar ben Azaria a dit à Rabbi Akiva, Akiva, malecha etzel Hagada, qu'est-ce que tu fais à t'occuper des sujets d'Agada? Il lui a dit, Kalach dibrotecha ou dabrotecha etzel negaim vaolot. Réserve, donc tais-toi dans ce domaine-là et parle dans les domaines de negaim vaolot, c'est-à-dire dans les halachot de Touma et de Tahara, de pureté et d'impureté, à la fois très difficile, dans lesquels, dira Rashi dans son commentaire, dans lesquels tu es très pointu. Mais abandonne le domaine de la Haggadah. Et donc c'est une remarque intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yossi Aglili dit ça, personne, semble-t-il, ne le contredit. Dès le moment où c'est Rabbi Akiva qui parle, ah non, non, toi, va t'occupe-toi d'autre chose. Occupe-toi d'alachot qui sont très techniques, en fait. Alors, beaucoup de commentateurs veulent dire que, dans la traduction en anglais aussi, c'est ce qui a été retenu, une remarque, que cette remarque de Rabbi Elazar ben Azaria veut dire la Haggadah c'est pas ton fort, occupe-toi d'autre chose, occupe-toi de Negaim ve Aolot. Il me semble que on peut lire autrement. Cette lecture-là, elle ne me plaît pas vraiment parce que je ne vois pas très bien ce que ça veut dire que Rabbi Akiva, qui est le grand maître par excellence, on lui dit, mais ça, tu sais pas bien le faire, va faire autre chose. Ça me paraît, bien sûr, très certainement que Rabbi Akiva avait des points sur lesquels il était plus fort que d'autres. Néanmoins, J'ai beaucoup de mal à imaginer que on puisse dire comme ça à Rabbi Akiva, va t'occuper d'autre chose, ça c'est pas ton fort, occupe-toi d'autre chose. On va voir un peu dans la suite comment est-ce qu'on peut regarder ces choses un peu différemment. Peut-être qu'on peut dire tout de suite qu'en réalité, ce qui se passe, c'est au contraire que Rabbi Akiva dit des choses qui sont trop difficiles à entendre. Il dit dans le domaine, disons, de la métaphysique, si on peut parler comme ça, il dit des choses qui sont ambiguës. Elles sont très très puissantes, mais à la limite, il faut justement un scalpel pour ne pas se fourvoyer dans ce que dit Rabbi Akiva. Évidemment qu'à première vue, de mettre le trône divin à la même hauteur que le trône de David Ameler, ça apparaît un peu fou. Mais c'est Rabbi Akiva qui parle. Donc il sait très bien de quoi il s'agit. S'il le fait, c'est qu'il a une construction du... Il a une vision du monde qui lui permet de voir ces choses de cette manière-là. Et le fait qu'il ait accepté le conseil de Rabbi Yossi Aglili et qu'il ait décidé d'enseigner au même niveau que Rabbi Yossi Aglili, c'est pas qu'il pense que ce qu'il disait était faux, mais Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Elazar ben Azaria sont des leaders, sont des chefs, si vous voulez, à part le fait qu'ils sont des grands amis de Chachamim, c'est des gens qui ont des responsabilités, on peut presque dire politiques, d'organisation du peuple. Et peut-être que Rabbi Akiva s'est rangé à l'avis de Rabbi Yossi Aglili en se disant peut-être qu'effectivement, ce que je dis est trop difficile à entendre pour le commun des mortels, pour les gens en général. Et donc, je peux accepter de le dire sous la forme choisi par Rabbi Yossi Aglili. Mais, semble-t-il, Rabbi Elazar ben Azaria, il avait encore une vue encore plus, en quelque sorte, encore plus exigeante quant à la douceur des paroles qui doivent être dites, au caractère sans aucune aspérité, quasiment, de ce qui doit être dit. Et lui dit, occupe-toi d'autre chose. On peut dire, lui, Rabbi Elazar ben Azaria, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est un seul trône, mais je te parle du siège, et je te parle aussi du repose-pied. Il y a un passouk qui dit que, Haaretz Adom Raglaï, le Hachem dit que la terre est quasiment son repose-pied, les cieux sont son trône, et le petit tabouret, en quelque sorte, c'est une espèce de repose-pied. On a l'impression qu'on a descendu le sujet un peu est devenu très facile, très léger. Rabbi Elazar ben Azaria, il pense que c'est comme ça qu'il faut traduire ce verset pour tout le monde, pour les gens. Et donc j'ai tendance à penser que là, on y reviendra, que ce que Rabbi Akiva dit, c'est plutôt trop puissant, trop difficile à entendre, comme il lui dit, tu es en train de faire de la shrina quelque chose, la présence divine quelque chose de profane. Il y a un midrash sur Tehilim. Le midrash rapporte un commentaire justement là aussi de Rabbi Akiva, où Rabbi Akiva dit sur un pasouk qui parle de qui parle des sources d'eau, Mayanot, et qui parle d'oiseaux, etc., qui volent au-dessus de la source d'eau. Et Rabbi Akiva dit à ce sujet-là, il dit, ça, c'est Malaché Acharet, c'est les anges de service. Alors Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael, lui dit, Akiva, jusqu'à quand est-ce que tu vas t'occuper de ces questions-là? Occupe-toi de Negaim Vaolot. Et lui, il interprète le verset. C'est, vous savez, c'est un verset dans Borchi Nafshi où le verset dit Gvul Samta Bal Yavorun. Tu as mis une limite afin qu'il ne la franchisse pas. Hamshaleach Mayanim Ban Khalim. Les sources donnent dans les fleuves, en fait. Et puis, au-dessus, Of Hashamayim Ishkon. Au-dessus, il y a un oiseau qui plane au-dessus de ces eaux-là. Et Rabbi Ishmael dira, il s'agit d'un oiseau particulier qui est sur un arbre, au-dessus des arbres, et qui chante la louange d'Hachem. Donc lui, il a banalisé le verset. Mais là, Rabbi Akiva, il avait dit, ce verset qui parle de source, qui parle de fleuve, qui parle d'oiseaux, il dit, ça, c'est le Malaché Acharet. C'est les anges de service. Là aussi, Rabbi Akiva, ce qu'il dit là, c'est un peu, on pourrait presque dire, c'est un peu tangent à une forme de panthéisme, quelque chose comme ça. Il y a ce danger là, mais Rabbi Akiva n'a pas peur. Pour lui, évidemment, il y a un scalpel qui va permettre de couper très net entre les deux. Il n'y a aucune ambiguïté telle que Rabbi Akiva l'entend. Mais Rabbi Ishmael, il a l'air très peureux, mais il banalise un peu le verset et il dit, oui, alors il y a un oiseau qui chante la louange d'Hachem. Mais du coup, ce verset, il perd de sa puissance. Il y a beaucoup d'exemples où Rabbi Akiva a dit des choses qui sont, comme je vous dis, des choses qui ont l'air limites. Et ses opposants ont des lectures beaucoup plus banales. On va essayer ce soir de voir ce que dit réellement Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Alors, vous avez ce texte de la Gemara de Menachot. Pardon? Vous avez ce texte de la Gemara de Menachot devant vous. C'est une Gemara qui est très connue. C'est Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, il a trouvé Akadosh Baruch Hu Yoshev assis. Assis, ça veut dire que quand on est assis quelque part, ça veut dire qu'on est le balabait, qu'on est le maître de maison. Vekosher Ktarim, qui attachait des couronnes, la otiyot. Il avait le Sefer Torah, il attachait des couronnes aux lettres, en fait à certaines des lettres de la Torah. Amar lefanav, alors Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, il a dit devant lui donc, Ribono shel olam, maître du monde, mi me'akev al yadcha, qui t'empêche de donner immédiatement la Torah? Pourquoi est-ce que tu dois prendre du temps pour attacher ces couronnes aux lettres de la Torah? Rachid dit que Mimeakev Aliantra, ça veut dire ce que tu as écrit, tu pourrais le donner tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu ajoutes encore des couronnes à ce que tu as déjà écrit, à la Torah que tu as déjà écrite? Alors Hachem lui a répondu à Moshe Rabbeinu, lui a dit, dans le futur, il viendra quelqu'un, après de nombreuses générations après toi, quelqu'un viendra, il s'appellera, ou il s'appelle Akiva Ben Yosef, et lui, il va être Doresh, c'est-à-dire il va interpréter, il va solliciter ses ktarim, ses couronnes, et sur chacun chacune des parties de cette petite couronne, il va interpréter, il va déduire de chaque partie Tile Tilim Shel Alachot, des montagnes de Alachot. Et donc, c'est très important, je suis en train de mettre au point, en quelque sorte, ces Alachot que, enfin, le support des Alachot que Rabbi Akiva va déduire, en quelque sorte, va apprendre de ces couronnes. Les couronnes en question, c'est simplement trois traits verticaux, en gros, trois traits comme ça, si vous voulez, un V et une barre au milieu. C'est les petites, toutes petites droites. Et ce sont les mêmes couronnes sur toutes les lettres sur lesquelles on met les couronnes. Il n'y a pas de couronne sur toutes les lettres. Vous avez sur la page, vous avez des illustrations de ces couronnes. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais dire ce que le Ben Ishraï dit sur cette Gemara. Le Ben Ishraï, lui, il interprète le Mi Me'akev Aliatra, qui t'empêche, Rashi lui l'a traduit par qui est-ce qui t'empêche de donner immédiatement la Torah. Le Ben Ishraï, il dit autrement. Il dit, en vérité, dans un Sefer Torah, il manque la ponctuation, il manque les voyelles. De telle sorte qu'on puisse lire le verset, parce que comme on a souvent fait remarquer, le Sefer Torah tel qu'il est devant nous, il est, si on n'a que le Sefer Torah devant soi, il est illisible. Puisque on ne sait pas comment mettre les voyelles, on ne sait pas non plus où il faut couper les versets. D'accord ? On a des suites de mots, mais il n'y a pas de point virgule, ni de... De temps en temps, il y a des petits paragraphes, mais c'est tout. Et donc tout ça, ça n'est pas dans le Sefer Torah. Alors le Ben Ishraï dit, en vérité, il s'appuie sur Rabbeinu Bechaye, qui dit que la raison pour laquelle dans le Sefer Torah la ponctuation n'est pas là, c'est-à-dire ni les voyelles, ni les, ce que nous on appelle la ponctuation, c'est-à-dire les points, les virgules, etc. Il dit, c'est kedei shenuchal lidrosh hamikraot bekama panim al yedei shinui kriyatam binkudot shonot. C'est justement pour qu'on puisse interpréter le texte de la Torah de plusieurs manières, en variant la ponctuation et les voyelles. Donc, si vous voulez, on a enrichi le texte en ne mettant pas les voyelles et la ponctuation. Et donc, quand Moshe Rabbeinu a vu Benevoa, il a vu dans sa prophétie, il a vu que Hachem n'écrivait que les tagim, il mettait que les couronnes. Alors il lui a demandé, qui t'empêche d'écrire plus que ça? Qui t'empêche de mettre en plus des tagim, mais les nekudot, mais aussi les points, les virgules, les voyelles? Alors Hachem lui répond, comme vous avez vu, quelqu'un va venir, celui qui va venir dans le futur, et lui va être Doresh, non seulement les lettres, mais il va prendre appui sur Al-Kol-Kot, c'est-à-dire toutes les petites droites qui constituent. D'accord, les trois droites qu'il y a sur les trois petits traits qu'il y a sur chacune de ces lettres. À tout cela, il va donner du sens au point qu'il va pouvoir en déduire des halakhot, en déduire des lois. Et si je mettais les nekudot, alors il pourrait pas faire tellement de drachot. Ça limiterait donc la lecture, la richesse de lecture de ce texte. Parce que, en quelque sorte, avec les points, on va choisir une seule lecture parmi les lectures. Alors à ce moment-là, bon, je comprends pourquoi il a vu après qu'Hachem ne mettait des couronnes que sur les lettres de Shatnes Getz, c'est-à-dire que sur quelques-unes des lettres. Il n'y a pas de tagim, il n'y a pas de ces petites couronnes sur toutes les lettres de l'alphabet. Il n'y en a que sur les lettres Shin, Ain, Tet, Nun, Zain, Gimel et Tzadik final. Ce sont les seules lettres sur lesquelles il y a ces couronnes. Alors il a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas ? Pourquoi est-ce que, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'enrichirait pas toutes les lettres avec ces couronnes ? Si ces couronnes, c'est un enrichissement, alors enrichissons toutes les lettres. Donc on peut lire aussi « Qui t'empêche de mettre des couronnes partout ?» Alors, Hachem a répondu, dit Rabbeinu Bachaye, qui cite le Ben Ishraï, « Ani noten tagim » Moi, je mets les tagim là où les drachot sont de bonnes drachot. En quelque sorte, j'ai prévu qu'on peut faire beaucoup de drachot, mais elles ne sont pas toutes bonnes. Et donc, j'ai fait une sélection des drachot qui étaient les bonnes drachot, et j'ai exclu les autres. Je n'ai pas mis la possibilité de mettre encore plus de sens à partir des autres lettres. Ça, c'est ce que Hachem a dit à Rabbi Akiva, à Moshe Rabbeinu, concernant les tagim. Donc, vous voyez, on a deux lectures différentes. On a la lecture de Rashi et la lecture de Rabbeinu Bechaye. Ensuite, la Gemara continue. Et alors, quand il a vu, mon cher Rabbeinu a vu qu'il y avait donc quelqu'un qui était capable de donner du sens, était capable de faire parler ce texte de la façon aussi extraordinaire, alors il s'est exclamé, il a dit à Hachem, mais je ne comprends pas. Adam Echad Yesh, il y a un homme comme celui-là, qui va être, il va vivre, c'est vrai, il vit dans quelques générations. C'est vrai, mais pourquoi est-ce que c'est pas lui qui va, pourquoi est-ce que tu vas pas donner la Torah par lui? Donc il avait demandé à voir Rabbi Akiva. Voilà. Hachem lui a dit comment il pouvait le voir, on va pas entrer maintenant dans ce détail là. Et ce qui s'est passé, c'est que mon cher Rabbeinu, quand il est entré en quelque sorte dans la yeshiva de Rabbi Akiva, il s'est assis, la 8e rangée, peu importe, il y a des versions où on dit que c'est la 18e, et il ne comprenait rien. Il était là, il ne comprenait rien. Lo haya yodea mahem omrim, il ne savait pas ce qu'il disait. Il s'est senti mal, tachash kocho. Mais à un moment donné, dans la discussion, Ils sont arrivés à un moment où un élève, quelqu'un a demandé une source. D'où est-ce que tu tiens ce que tu nous dis là? Et alors, Rabbi Akiva a répondu ça, Alakha le Moshe Misinaï. C'est une Alakha que Moshe Rabbeinu a reçue au Sinaï. Du coup, dit Yashvada Ato. Bon, il s'est senti mieux. En vérité, Rachid dit, cette Alakha, Hachem ne l'avait jamais donnée. Moshe Rabbeinu ne l'a pas reçue, cette Alakha au Sinaï. Ça aussi, il faut la comprendre. De quoi il s'agit exactement? Mais en tout cas, cette halakha, ce texte-là, halakha, le Moshe mi Sinaï, ça n'a jamais été donné. Mais ça a servi à réconforter Moshe Rabbeinu. C'est plus que ça, bien sûr, mais. Bon. Alors maintenant, quand il a vu ça, donc il a dit, il y a quelqu'un cet akabi-là, alors c'est par lui que tu dois donner la Torah, pas par moi. Alors Hachem l'a répondu, shtok, tais-toi. Kach ala bemarshava lefanai. Littéralement, ça veut dire, ainsi, c'est monté dans ma pensée, dans ma marshava, c'est monté devant moi dans la marshava. Moshe Rabbeinu a continué, il a dit, tu m'as montré sa Torah, montre-moi son sachar, montre-moi littéralement son salaire. On verra que c'est pas tellement évident de savoir le salaire. Moshe Rabbeinu ne savait pas qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde-ci, que le salaire c'est dans le monde à venir. C'est ça qu'il voulait voir. C'est pas ça qu'Hachem lui a montré en tout cas. Amarlo, de nouveau, il lui a dit, retourne en arrière, et il a vu qu'on torturait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on avait peigné sa chair avec des peignes de fer et qu'on a vendu sa chair au marché. On vendait sa chair sur les marchés. Alors Moshe Rabbeinu a dit, Zou Torah ve Zou Schara. Une telle Torah et un salaire pareil, c'est un scandale. Amar le Hachem lui a répondu, shtok, tais-toi. Kachala ve marshava lefanai. Ainsi, c'est monté à la marshava devant moi. Donc deux fois, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tais-toi. C'est monté comme ça, à ma marchava, en quelque sorte. Bien. Je voudrais rapporter maintenant sur cette Gemara une lecture qu'on a faite de Meshech Chochma, d'abord sa mère, qui est un grand, grand maître d'avant la guerre. En fait, il rapporte ce texte-là pour expliquer tout un sujet sur lequel il s'est longuement étendu. On ne peut pas faire ça ce soir. Mais on va seulement dire la chose suivante. Comme il le dit, on trouve souvent dans la Torah, dans la Gemara en particulier, on trouve que la Gemara dit, ce que je te dis là, c'est, comme on dit, mit derabanan, vekra asmarta be'alma. Et le verset, il est là comme un appui seulement. Alors, je vous explique. D'ordinaire, il y a des choses qui sont écrites dans la Torah. D'accord, ça veut dire, vous avez des mitzvot qui sont explicites dans la Torah. C'est marqué, kabed et avicha ve'itimecha, tu donneras du poids à ton père et ta mère, ça. Cette mitzvah-là, elle est écrite explicitement dans la Torah. Et puis, donc on pourrait dire, tout ce qui est écrit explicitement dans la Torah, ça s'appelle min ha-Torah, c'est mid-oraita. Il se trouve qu'il y a des versets qui disent les choses, c'est-à-dire dont on on a l'impression qu'on pourrait très bien dire, ben voilà, ce verset-là me dit quelque chose. Donc cette chose-là, elle est minatora, elle devrait être midoraita. Midoraita, c'est la minatora. Et pourtant, l'Agmara dit non, c'est seulement midrabanan. Ah, il y a un verset. Oui, mais le verset, c'est seulement un point d'appui en quelque sorte. Mais de ce verset ne confère pas à cette loi-là le statut d'une mitzvah minatora. Alors il dit, je vais expliquer ça avec l'Agmara de Menachot qu'on vient de lire. Alors il rapporte l'Agmara de Menachot, Maseret Menachot donc, et il dit la chose suivante. Bon, je crois que c'est assez important. Il dit, la Bechira, la possibilité que nous avons de choisir librement, elle existe. Et quant au fait que Hachem sait, il sait les choses à l'avance, ce savoir-là, cette yédia, elle n'invalide pas du tout, elle ne diminue absolument pas notre liberté de choix. Seul le savoir d'une créature oblige, contraint et empêche la liberté. Mais Hachem, dans sa connaissance absolue de tout ce qui se fait, et par le fait qu'évidemment, il n'est pas dans le temps, donc il n'y a pas de passé, de présent et de futur pour lui. Il dit, c'est ça que veut dire le tétragramme. Le tétragramme, quand on dit que c'est Aya, Ove, Viye, ça veut dire, justement, que Hachem n'est pas dans le temps. Tous ces temps-là, pour lui, sont absolument égaux, enfin, il ne joue absolument aucun rôle. Ça, évidemment, nous ne pouvons pas le comprendre, pas plus qu'on peut comprendre l'ubiquité, etc. Donc, il dit la chose suivante. Hachem a vu que dans certaines circonstances, les Bnei Israël vont s'assimiler, quand ils seront en Galoute, par exemple en Babel, ils vont s'assimiler et ils vont se mettre à parler ashdoudite, c'est-à-dire une langue étrangère, et ils ne parleront plus du tout le Lashon HaKodesh, ils ne comprendront plus rien du tout. Et donc ça va entraîner l'oubli de la Torah. Alors, pour assurer qu'on ne se perde pas complètement, alors par exemple, il sera nécessaire d'interdire de consommer des choses qui sont cachères mais qui ont été cuites par des idolâtres. Si un idolâtre cuit, on ne peut pas manger. Bon, je ne peux pas entrer dans le détail. Et là-dessus, évidemment, la Torah y fait allusion seulement. C'est marqué « Ochel bakesev tishberu ». La nourriture, littéralement, ça veut dire « vous l'acquérez avec de l'argent ». Ça ne veut pas dire ici que cette chose-là, cet interdit, il est minatora. C'est un interdit midrabanan. Bon, c'est une décision des rabanan. Mais il y a un verset sur lequel les rabanan ont pris appui. Mais il n'est pas source de cette loi. Au sens où cette loi deviendrait un issur de rabanan, un issur de raïta. Rak Hashem, comme il dit, bidiato haatid, vaskimo al mifalot gdole hauma haatidim. En fait, Hashem, il agrée à l'avance la démarche des grands maîtres, des générations à venir, et il a mis dans la Torah, Bechokhmato Ha'Eliona, avec sa grande sagesse, il a mis une allusion, comme il dit ici, Betagim Vekayotse Ba'en, sous la forme de Tagim ou d'autres choses qui sont des allusions à la chose. Seulement, Shum Nivra Lo Yachol La'Asig, aucune créature ne peut comprendre, ne peut accéder à cela avant que la chose soit actuelle. C'est-à-dire avant qu'on soit dans la situation où les Chachamim ont été obligés de prendre ces mesures-là, personne ne peut lire dans le texte que ce texte veut dire cela. En d'autres termes, il dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ? Parce que si un homme pouvait lire ce texte, alors je sais que c'est comme ça que ça va arriver, donc les gens n'auraient pas eu d'autre possibilité que d'épouser des femmes étrangères, etc. Puisque je le sais, si c'est écrit dans la Torah, si je sais que c'est écrit dans la Torah, alors on est plus libre du fait que je le sais. Que ce soit dans la Torah, que ce soit un prophète qui le dise, à ce moment-là, ça devient parole humaine en quelque sorte. Et cette parole humaine, qui est vérité parce qu'elle elle prend appui sur la Torah, ben elle l'empêche de faire autrement que ce que dit cette parole. Donc pour cette raison-là, c'est illisible jusqu'au moment où on sera en situation. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il lui a dit, c'est comme ça que lui il enseigne le texte, il lit ce texte, il lui a dit « Akiva ben Yosef, etc. » De la même manière, à partir du moment où les Chachamim ont interdit certaines choses, parce que les circonstances exigeaient qu'ils l'interdisent, alors il s'est trouvé, dans certains cas, on trouve un point d'appui dans le texte. Mais avant que on en arrive à la nécessité de prendre cette décision-là, le texte ne se lit pas comme ça. Seulement après coup, je comprends ce que ça veut dire. Le texte qui disait que tu achèteras la nourriture en la payant, là-bas on parle du fait que quand tu vas traverser le territoire de Edom, c'est les Bnei Israël, n'est-ce pas, qui vont entrer en Eretz Israël, tu traverseras le territoire, tu payeras. Tu peux leur dis-leur que tu vas rien leur coûter. Tu veux seulement traverser, mais tu payeras tous les dégâts, tu leur achèteras de la nourriture, tu leur achèteras de l'eau, tu payeras pour la nourriture, pour l'eau, etc. Tiens, ce texte-là, il dit ce qu'il dit. Maintenant, en déduire, comme on l'a fait, que c'est un point d'appui sur le fait qu'on ne pourra pas manger, tu n'auras pas accès directement. S'il faut payer, ça veut dire que je n'ai pas accès à la nourriture. Bon, tu n'auras pas accès à la nourriture, ça veut dire la nourriture cuite par les idolâtres, tu ne pourras pas la manger. Mais cette lecture-là, elle n'est possible qu'à partir du moment où les Chachamim ont décidé qu'on ne pourra pas manger cette nourriture-là pour éviter une assimilation trop forte. Auparavant, ce verset-là, il ne se lisait pas comme cela. Il se trouve donc la Yediya Ha'Eliona, la connaissance supérieure, donc Hachem, qui savait, qui connaît le futur évidemment, ce qui est futur pour nous, il a donné une allusion dans le texte. Et c'est ce qui est dit que Moshe Rabbeinu, quand il était dans la yeshiva de Rabbi Akiva, il ne comprenait rien. Pourquoi il ne comprenait rien? Parce qu'il ne pouvait pas comprendre. C'était impossible de comprendre. Parce que si Moshe Rabbeinu avait compris ce que disait Rabbi Akiva, alors, de ces Ramazim, par exemple, toutes ces questions-là, où Rabbi Akiva a décidé, si elle avait compris ce que disait Rabbi Akiva, et comment Rabbi Akiva prenait appui sur les versets, on aurait été bloqué. ce serait devenu le sens de la Torah, et puisque la Torah dit comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc on n'aurait pas été libre de... On a été obligé, par exemple, d'épouser en Babel, ils auraient été obligés d'épouser des femmes étrangères, des non-juives. Et c'est ça qu'il lui a répondu. Kachala be marchava lefanai. C'est monté chez moi en marchava. Ça veut dire ce que Rabbi Akiva a dit, ça correspond à des choses auxquelles j'ai pensé. Ne pense pas que Rabbi Akiva a inventé les choses de toutes pièces. En quelque sorte, je l'avais pensé avant lui, si on peut parler comme ça. Kachalab marchava. Mais toi, l'otuchal leda, tu ne peux pas, toi, mon cher Abeinu, qui vis à l'époque où tu vis, c'est-à-dire des générations avant Rabbi Akiva, tu ne peux pas comprendre cet enseignement spécifique de Rabbi Akiva. C'est un enseignement qui ne se dévoile. C'est pas que mon cher Rabbi n'avait pas les kélim, il n'était pas assez intelligent, etc. Le texte lui-même ne parlait pas encore comme ça. C'est ce que dit ici le Meshech Chochma, c'est extraordinaire. N'est-ce pas? On a affaire à un texte, et ce texte parle différemment au long des générations. Et il parle différemment en fonction de ce que les Chachamim vont dire. Ce sont les Chachamim des différentes générations qui vont, comme, ils vont faire apparaître la lecture en question. Seulement Hachem dit oui, bien sûr, cette lecture, je l'y avais pensé. Ça, c'est une bonne lecture. Mais c'est les Chachamim qui la font apparaître. Ils font apparaître les versets, la lecture de ce verset. Jusque-là, on avait un verset qui nous disait ce qu'on allait faire quand on allait traverser le territoire d'Edom, ce qui évidemment ne nous concernait plus du tout, nous, ni Rabbi Akiva, ni... Ça concernait la génération qui a traversé le territoire d'Edom pour arriver en Eretz Kenan. Et voilà que, évidemment, la Torah, elle est éternelle, donc elle a d'autres sens. Mais quel sens? Voilà. En voilà un. Et ce sens-là, il n'existe qu'à partir du moment où Rabbi Akiva, ou Rabbi Yossi Aglili, ou Rabbi Elazar ben Azaria, ou Rabbi Meir, etc., ont pris une décision. Quand eux prennent des décisions, alors le remez, alors ce texte-là fait allusion à ce à quoi eux parlent. C'est-à-dire, ils parlent divinement. C'est compliqué. Ils parlent divinement sans savoir qu'ils parlent divinement. Sans savoir, ça veut dire, c'est pas qu'ils sont inspirés. Mais quand ils auront parlé, le texte parlera dans le même sens qu'eux. Et Hachem dira, oui, j'ai pensé à cela. Ça fait partie à la marchava. C'est au niveau de la marchava, c'est venu. Je ne l'ai pas écrit comme ça. Je ne l'ai pas écrit en toutes lettres. Je l'ai écrit de façon allusive. Et cette allusion, elle va jusqu'à utiliser les tagim. Les tagim, ça n'a pas de forme. Là, c'est des petits traits. Vous allez rendre. Voilà. On va donner du sens à ces petits traits. Et non seulement du sens, mais on va y accrocher des montagnes d'alachot. La vérité, c'est que je ne connais aucune halakha qui vienne de ces tagim. Mais moi, je ne sais pas. Il y en a probablement, mais je ne les connais pas. Il y a des choses qu'on sait que ça vient de là, qu'il y a des montagnes, mais je ne les connais pas. Vous avez lu cette année, le soir du Seder, vous avez appris que pour Rabbi Akiva, au passage de la mer, il y avait 250 makot. Vous pouvez en citer une? Zéro. Je ne connaissais pas. Il n'y en a pas. Je ne connais pas même de Midrash qui en cite. Vraiment, en tant que Maka. Et il y avait 250. Bon, c'est un travail que Rabbi Akiva a fait. L'autre disait qu'il y en avait 200. Lui, il dit 250. C'est la puissance de Rabbi Akiva. ici on comprend bien avec le chef Orma, on comprend bien ce dont il s'agit réellement. Bien. Alors on va regarder un peu plus en détail ce que dit le Maharal de Prague sur notre Gemara. Alors d'abord, quand on a une, enfin, disons, on va procéder comme ça, quand on a une Gemara de ce genre, il faut essayer de regarder quel est son contexte. Alors elle est dans un chapitre de Masechet Menachot, et cette Gemara vient comme commentaire, elle vient discuter une Mishnah. Et dans cette Mishnah, il y a aussi un rapport dans le courant de la discussion. On rapporte que Moshe Rabbeinu, il y avait trois choses qu'il ne comprenait pas. Vous les connaissez vraisemblablement. Il comprenait pas ce qu'Hachem voulait de lui, cette fois mitzvot. C'était comment est-ce qu'on fabrique la menorah? À partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'on a vu la nouvelle lune, c'est-à-dire quelle est l'épaisseur du croissant de lune qu'il faut avoir vu pour qu'on puisse dire la nouvelle lune, on a vu la nouvelle lune, donc le nouveau mois est commencé. Et parmi les reptiles, certains insectes, certains reptiles, la plupart d'entre eux, quand ils sont morts, quand on a simplement... D'abord, il faut dire, le vivant n'est jamais impur. Dans le vivant, il n'y a pas d'impureté, sauf l'homme. L'être humain, il peut devenir impur. Mais une vache ou un escargot, etc., ça ne peut jamais devenir impur. Si ça vit. Quand ça meurt, alors il y a 8 shratzim, il y a 8 reptiles. Vous voyez, il y a 8 lézards ou autre truc, dont la carcasse, dont la charogne, si vous voulez, lorsqu'ils sont morts, rend impur. Si on touche, on devient impur. Et Moshe Rabbeinu, il avait du mal à savoir lesquels d'entre tous, vous savez bien, il y a énormément d'insectes et de reptiles, etc. Il avait du mal à savoir quels sont les 8, les seuls 8 qui sont impurs, qui rendent impurs. Et à chaque fois, Hachem lui a montré. Il a montré du doigt, en quelque sorte. Il lui a montré la menorah, une menorah de feu dans le ciel. Il lui a montré le croissant de lune. Et il lui a montré quels étaient les insectes, reptiles, qui rendaient impurs. Donc c'est un problème où Moshe Rabbeinu a, si vous voulez, il a une difficulté, et Hachem l'aide en lui montrant les choses. Donc ici on est dans un contexte, si vous voulez, où Moshe Rabbeinu, quand il a un problème, il demande à Hachem, montre-moi. Or, il avait un problème quand il a vu les tagim. Il a vu un Kadosh Baruch Hu qui attachait les tagim. Qu'est-ce que c'est? Explique-moi ce qu'il en est. Puis après, on lui a parlé de Rabbi Akiva. Donc, il a demandé à le voir. Donc ça a l'air d'être à peu près cohérent avec cette démarche. Dans le texte en question, dans le contexte, si vous voulez, de notre Gemara, il y a un autre problème qui est soulevé, qui est le suivant. On dit que quand on écrit une mezouza, il y a deux paragraphes, et les deux paragraphes sont nécessaires. Si on a seulement un des deux paragraphes, évidemment la mezouza n'est pas cachère. Et le texte continue et il dit, et même s'il y a une lettre qui manque, la mezouza n'est pas cachère. La morale dit, ben ça c'est trivial, évidemment. Pas besoin d'un grand détour pour me dire qu'une mezouza dans laquelle il manque une lettre. La morale dit non, c'est seulement un point, une pointe du yud, d'un yud. Si ça, ça manque. On vient nous dire, ça c'est pas non plus cachère. Comment on dit, mais ça c'est évident. Une lettre, si elle n'est pas complète, elle n'est pas complète, c'est comme si elle n'était pas là. Et donc, tu ne m'as rien dit. On m'aurait dit, non, mais alors en fait, ce que je veux te dire, le chidouche ici, c'est que les lettres dans la Torah, elles doivent être entourées de blanc. C'est-à-dire, imaginez que quelqu'un écrive sur le bord de la mezouza, tout en bas, il y a une lettre, et la lettre est tangente au bord de la mezouza. Donc elle n'est pas entourée de blanc. Il n'y a pas de blanc sur cette partie-là, puisque elle est tangente au bord de la, du parchemin de la mezouza. Même chose dans le Sefer Torah. Alors, ça, c'est pas caché. Les lettres doivent avoir du blanc autour. Alors, il faut du blanc. Alors maintenant, est-ce que ce blanc veut seulement dire qu'il n'y a pas de noir, ou bien est-ce qu'il faut vraiment que ce soit du blanc? Alors la Gemara va se demander, par exemple, qu'est-ce qui se passe si dans la lettre He, au milieu, il y a un trou dans le parchemin. Donc, c'est dans le blanc, il y a un trou. Alors, est-ce que ça invalide la lettre ou pas? Il y a du blanc, mais au milieu du blanc, il y a un trou. En tout cas, ce qui est important, c'est cette histoire de blanc. Parce que qu'est-ce que c'est le blanc? Le blanc, c'est d'une certaine façon la respiration de la lettre. Le blanc, c'est ce qui permet d'envisager une extension de la lettre. Donc, pour donner du sens, cette idée d'un blanc qui entoure veut dire par là qu'il faut que le texte puisse respirer. Il faut qu'on puisse l'interpréter, et donc il ne faut pas que le noir arrive jusqu'au bout, parce qu'à ce moment-là, j'ai plus de liberté. Mais ça veut donc dire que les tagim qui sont sur la lettre, bon, ils empiètent sur le blanc. On a mis du noir dans le blanc. Bon, les tagim, eux aussi, ils ne peuvent pas arriver jusqu'au bord. Et quelque part, on a empiété sur le blanc. Si on empiète sur le blanc, c'est comme si on avait limité l'expansion, le sens, les différents sens de la lettre. Quand j'avais plein de blanc, bon, tout ça c'était permis. Et maintenant, j'ai quand même mis du noir, quelque part. C'est trois petits traits, mais ça empiète sur le blanc. Mais on a vu dans l'interprétation que les tagim de Ben Ishraï, au nom de Rabbi Nobechaye, que les tagim, c'est à la fois une extension et aussi une limitation. Puisque là où il n'y en a pas, c'est parce qu'Hachem ne voulait pas cette interprétation. Et l'autre, il a favorisé certaines interprétations. Donc, à la limite, il y a cette idée-là, hein, dans les tagim qui empiètent sur le blanc. Voilà, on a ces... Il y a ces tagim. Et donc ça fait le lien avec le problème de ce blanc, l'histoire du blanc, ça fait le lien effectivement avec le sujet de Moshe Rabbeinu, avec cette interprétation, les tagim, le noir qui empiète sur le blanc, et le fait que Moshe Rabbeinu demande à voir. Donc si vous voulez, il y a une certaine unité de cette Agada, de ce texte-là, avec la partie plus directement halachique du chapitre en question, du commentaire sur cette Mishnah. Et, du coup, ça veut dire probablement que dans cette dans cet enseignement que nous donne ce récit de Moshe Rabbeinu à l'écoute de Rabbi Akiva, etc., il y a probablement l'essentiel, chose fondamentale, le contenu, ou un des contenus en tout cas, de la partie halakhique. La partie qui dit qu'effectivement, il y a des situations dans lesquelles il faut avoir vu. On peut probablement, si Moshe Rabbeinu ne comprenait pas sans avoir vu, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait se donner que par le voir. Et donc, cette idée qu'il y a des choses, effectivement, qu'on ne peut que voir. Si vous voulez, les tagim ne font pas partie de la lettre. Ils ne sont pas une partie de la lettre. Ils viennent par-dessus. Ils viennent en plus. Moshe Rabbeinu, lorsque il se trouve devant cette situation-là, et qu'il pose ses questions à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu lui annonce les choses, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette affaire-là? Les lettres, elles correspondent, elles sont faites pour être lues. Je vous ai dit, en fait, les lettres ne sont pas directement lisibles dans le Sefer Torah si on n'a pas une tradition qui nous dit quelle voyelle il faut mettre à ces lettres. On peut pas. Mais une fois qu'on a cette tradition, on peut lire. Mais maintenant, interpréter des petites barres, des petites lignes, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se fait là dans cette interprétation de petites lignes? Comment est-ce qu'on pourrait comprendre de quoi il s'agit? Alors, on va essayer d'avancer un peu là-dessus. Akadosh Baruch Hu a répondu à Moshe Rabbeinu par deux fois, tais-toi. Stop. C'est assez dur, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Moshe Rabbeinu a posé une question. Akadosh Baruch Hu ne lui a pas répondu. Il a posé une question. Pourquoi est-ce que c'est pas par lui que tu donnes la Torah? Hachem lui a répondu, tais-toi. À part le fait que c'est pas très sympa, mais bon, il n'a pas répondu à la question. Ensuite, il a demandé, mais comment c'est possible ce scandale de la torture à laquelle Rabbi Akiva est soumis? Hachem lui a répondu, tais-toi. Alors, je pense que il faut entendre que tais-toi, c'est la réponse. C'est pas je ne te donnerai pas de réponse, tais-toi. C'est la réponse. Stock. Qu'est-ce que ça veut dire, tais-toi? C'est pas une disqualification. C'est, en quelque sorte, c'est volontairement qu'Hachem a montré à Moshe Rabbeinu. Hachem, il a fait exprès de que Moshe Rabbeinu le trouve en train d'attacher des couronnes, etc. Et il savait bien qu'il allait lui poser ces questions, donc c'est intentionnel, évidemment. Et qu'il montre à Moshe Rabbeinu non seulement l'enseignement de Rabbi Akiva, la Torah de Rabbi Akiva, mais il lui montre aussi la mort de Rabbi Akiva. Et cette mort de Rabbi Akiva, par exemple, elle est tout à fait scandaleuse dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Selon la Torah, c'est-à-dire si on, tel que Moshe Rabbeinu l'entend et nous l'a enseigné, c'est scandaleux. Il n'y a pas de place pour un traitement pareil dans la Torah de Moshe Rabbeinu. On nous dit en fait, ici, dans ce texte, un niveau de Rabbi Akiva. Ça veut dire que la Torah et la mort de Rabbi Akiva sont au niveau de la shtika, du silence. Elles appartiennent au monde du silence, c'est-à-dire au monde de la marshava, au monde de la pensée. Au monde de la pensée et pas au monde des processus naturels qui sont à l'œuvre dans le monde. La Torah ne peut pas être donnée par Rabbi Akiva. Semble-t-il, la Torah de Rabbi Akiva, ce n'est pas ça qu'Hachem voulait donner. La Torah de Rabbi Akiva, elle est présentée ici comme la Torah des Tagim. Ce n'est pas que Rabbi Akiva n'a enseigné que les Tagim. Nous avons plein d'enseignements de Rabbi Akiva dont on ne nous dit pas du tout, on sait comment, à quoi il les a rattachés. On sait très bien que ce n'est pas au Tagim qui les a rattachés. Comme je vous ai dit, au Tagim, a priori, on ne connaît pas les halakhot que Rabbi Akiva a rattachés au Tagim. En tout cas, je ne les connais pas, j'ai entendu. Donc, la Torah de Rabbi Akiva, cette Torah des Tagim, c'est-à-dire c'est la Torah qui n'est pas la Torah des lettres. La spécificité de la Torah de Rabbi Akiva, c'est de ne pas être la Torah des lettres. C'est pas la Torah de la parole articulée, si vous voulez. Alors c'est quoi? C'est la Torah, c'est une Torah qu'on pourrait dire que, dont on pourrait dire que c'est une Torah à laquelle on accède comme dans la Marshava. Dans la Marshava, on n'a pas besoin de temps pour que les choses se déroulent. Dans la pensée, je ne parle pas d'une pensée qui déjà en fait est une parole qui se passe dans ma tête. Mais des fois, dans la marshava, j'ai tout compris en une fois. Tout est venu à la fois. J'ai tout compris. Ça ressemble à ce qui se passe dans la vision. Dans la vision, vous voyez tout à la fois. Vous pouvez revenir et regarder dans le détail, mais la vision du tableau, vous avez tout le tableau à la fois. Quand vous parlez, vous êtes obligé de prendre du temps, vous êtes obligé de dérouler les choses. Quand vous écrivez, vous êtes obligé de dérouler les choses. On n'a pas ce global ici, cette espèce de tout à la fois. Il n'existe pas dans la parole. En fait, on avait vu ça à Mme Malka, où on avait parlé d'Aseret HaDibrot. Juste avant le Anochi, juste avant la première de Aseret HaDibrot, le pasouk dit qu'Akadosh Baruch Hu a parlé Tadvarim Ha'el. Il a dit ses paroles. Et nos maîtres enseignent Akadosh Baruch Hu, il a tout dit à la fois. D'abord, on a reçu toute la Torah à la fois. Tout le monde n'a rien compris, évidemment, puisque tout était à la fois. Et après, on a déployé. Après, on a ouvert le Anochi, puis après le Yelecha, etc. Mais avant cela, nous avons reçu la Torah sous la forme de tout à la fois. Disons, si vous préférez, les 10 paroles, on les a reçues en même temps. Alors, il nous est resté quelque chose de cela, comme nous le disons dans le Chadodi, que Zachor v'shamor bedibur echad. Zachor et Shamor ont été dits ensemble. C'est-à-dire que même quand on a déployé, Zachor et Shamor sont restés ensemble. Ça a été dit ensemble. Comme dit le Midrash, c'est quelque chose qu'on peut pas, l'homme ne peut pas le faire. Pas longtemps, mais ils ont été dits ensemble. Bon, les deux composantes du Shabbat ont été dites ensemble. C'est comme si on avait un reste de ce que les 10 paroles en réalité ont été dites toutes ensemble. Mais après, même dans la répétition, même dans le déploiement de la chose, c'est comme si on, vous avez un rouleau, vous avez une Megillah, d'accord, vous avez, voilà, toute la Megillah, elle est. Vous avez toute la Megillah. Vous ne pouvez pas la lire, elle est fermée. Vous voulez lire, il va falloir déployer. Mais je crois qu'il existe aujourd'hui déjà des instruments qui pourraient lire sans qu'on ouvre. Ils peuvent lire un livre sans l'ouvrir. Bon, si vous avez des lectures possibles, sans l'ouvrir. On descend avec un laser, très progressivement, une page après l'autre. Il n'y a pas besoin d'ouvrir. Et nous, on ne peut pas faire ça. Nous, disons, l'être humain, il ne sait pas faire ça. La Torah de Rabbi Akiva, me semble-t-il, elle est de ce genre-là. Elle est donc, justement, en dehors des processus standards dans notre monde. Processus naturel. La lumière de la Torah, la lumière de la Torah elle-même, elle est au-dessus de toute possibilité d'expression. Elle est dans le Or en Sof, comme on dit. C'est-à-dire, je ne peux pas la saisir dans son état premier. Ce niveau-là de la Torah s'appelle la Torah de la Marshava, la Torah de la pensée. Pour pouvoir l'exprimer, je vais devoir la faire descendre au niveau de la parole. Ce qu'on pense, pour pouvoir le parler, le Maharal dit, le sechel de la pensée est plus élevé que le sechel de la parole. Donc c'est comme s'il fallait descendre, prendre le fichier ici et le descendre, mais il faut le reformater de telle sorte qu'on puisse l'exprimer. Dans Marshava, ça ne veut pas dire qu'on pense quelque chose de précis, au sens de ça c'est déjà, comme je vous dis précédemment, ça c'est déjà presque de la parole non exprimée, mais c'est déjà sous forme de parole. Une fois la Marshava elle-même, en nous, elle est déjà en mots, elle est déjà en phrases et en représentations, en images, etc. Ça, c'est déjà du dibour, c'est déjà de la parole, même si ce n'est pas encore parlé, mais c'est déjà dans le registre parole. Rabbi Akiva, c'est le maître, le grand maître de la Torah Shebalpé, de la Torah orale. C'est-à-dire que c'est à travers lui, par lui, que la Torah qui était cachée a été dévoilée. D'après la Torah, d'après le Moshe Kibel Misinaï, ce que Moshe Rabbeinu a reçu au Sinaï, cette Torah, elle serait absolument cachée. Parce que le monde d'avant le Khurban, le monde d'avant la destruction du Beth Amikdash, premier Beth Amikdash, le monde n'était pas en quelque sorte, il n'était pas assez riche en matière, si vous voulez, il n'était pas assez dense en matière, il était trop spirituel, si on peut parler comme ça, pour que la lumière de la Torah puisse se dévoiler totalement dans ce monde. Pour qu'il y ait de la lumière, il faut de l'obscurité. S'il n'y a que de la lumière, on ne voit rien du tout. coup de l'obscurité. La lumière, elle va se montrer par opposition à l'obscurité. Donc si on n'a pas assez d'obscurité, ben, on ne voit rien. Donc la lumière ne peut pas se dévoiler. Alors il faut dire, le monde d'avant, le Qurban, de ce point de vue-là, spirituellement, il n'était pas assez matériel. La dégringolade qu'a causé la destruction du Beth Amikdash a permis ce dévoilement. Ces problèmes de densité, par exemple, c'est pour cette même raison qu'on a dû mettre la Torah, qui aurait dû rester orale, on a dû la mettre par écrit. Parce que la densité de Chachamim que nous avions était trop faible pour assurer la transmission de la Torah. Les Romains nous ont tué tellement de gens qu'on n'avait plus assez de maîtres. Donc on craignait qu'éventuellement on ne puisse plus transmettre la Torah. Parce que la densité de la population sur un certain territoire est trop basse, ce territoire va devenir un désert, quoi que veuillent faire les gens sur place. Il faut une certaine densité. On n'avait pas cette densité, et paradoxalement, on n'était pas assez pourri à ce moment-là. Le monde n'était pas assez mauvais, assez matérialisé, matériel, si vous voulez, en position spirituelle, si, pour ce faire. Et donc, ce dévoilement de la Torah, il ne pouvait pas se faire à ce moment-là. N'est-ce pas? C'est ce que le Meshech Chochma a expliqué. Le dévoilement ne pouvait pas se faire parce que la situation n'était pas là. C'est la situation, plus exactement la parole des Chachamim, d'accord, qui a permis le dévoilement de la Torah de Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu, lui, en son temps, il ne pouvait pas y avoir accès. Parce que cette lumière-là ne pouvait pas se dévoiler, parce qu'il n'y avait pas assez d'obscurité, si vous voulez, pour qu'on puisse apprécier, si on parlait comme ça, cette lumière. En réalité, la lumière en question de la Torah, elle aurait dû se dévoiler au Sinaï, complètement. Et la faute du Hegel, la faute du Vaudor, a fait que ça n'a pas été possible. La réparation de cela, c'était par Rabbi Akiva et ses 12 000 pères d'élèves, donc ses 24 000 élèves. Ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché, puisque ils sont morts. Il faut, n'est-ce pas, que la Torah puisse descendre dans les profondeurs, les plus lointaines, en quelque sorte, de la lumière. Il faut qu'elle puisse descendre. Cette idée de cette descente, en quelque sorte, de la Torah, en fait, expliquer que pour que la Torah puisse vraiment se dévoiler, il faut qu'elle se dévoile à tous les niveaux du monde. Le Ratzon Hashem, la volonté d'Hashem, c'est que sa Torah soit dévoilée justement dans le monde le plus matériel qui soit. À ce moment-là, ça voudra dire que la Torah s'est dévoilée à travers tous les mondes et que tout le monde, en fait, reconnaît la valeur de la Torah. Et donc, il faut arriver à la faire descendre au plus bas. Et je pense que, pour revenir à ce dont on parlait au tout début, Rabbi Akiva, c'est évidemment un génie, quand il parle de choses techniques, comme Negaïm, à Olot, une question de d'impureté, de, etc. Ça ne remet pas les gens en cause. Technique, j'accepte, j'accepte pas, on comprend pas. Pas très grave. Mais quand Rabbi Akiva se met à parler de métaphysique, si vous voulez, se met à parler d'Akadosh Baruch Hu, du trône d'Hachem dans le monde, alors il dit des choses qui sont tellement fortes que les autres ont peur. Ils ont peur. Parce que c'est la Torah de Rabbi Akiva, c'est lui le maître. Finalement, c'est vrai que tout ce que nous avons, nous l'avons de Rabbi Akiva, mais ça a été, on peut presque dire, ça a été digéré par Rabbi Meir, par Rabbi, etc. C'est Rabbi Meir, mais alibé de Rabbi Akiva, ça veut dire, il a appris chez Rabbi Akiva, et il a appris, lui, chez Rabbi Akiva, après la mort de tous les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a tout recommencé avec ce qu'on a appelé les sages du Sud, qui étaient 5, certains disent 7, 7 maîtres, dont l'un d'entre eux était, mais l'autre était, un autre était Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, ce que nous avons, c'est à travers eux, l'enseignement de Rabbi Akiva. Ce que disait Rabbi Akiva, puisque sa Torah, c'est la Torah de la Shtika, la Torah du silence. Qu'est-ce que ça peut être, la Torah du silence? C'est la Torah de la Marshava, la Torah de la pensée. Mais comment ça se transmet? Parce que si tu la parles, c'est plus une Torah de la Marshava, ça devient une Torah parlée. Alors Moshe m'a fait remarquer que ça, on pourrait imaginer la transmission de la manière suivante. Dans la Torah, dans la Gemara, c'est marqué Gdola Shimusha Yoter Milimuda. La Torah, le Shimush de la Torah, est plus grand que l'étude. Ça veut dire quoi? Servir, voir vivre, être auprès des maîtres qui vivent la Torah, c'est plus grand que le limoud, c'est-à-dire ça permet d'apprendre des choses qui ne s'apprennent pas par la transmission orale. Je ne sais plus si c'est Rabbi Yochanan qui disait. On peut bien raconter que l'homme descend du singe, mais moi j'ai vu Rabbi Israël Salanter et je sais, on descend pas du singe. Ça veut dire, il y a une façon de voir, enfin il y a une façon de transmettre par le vivre. Alors cette façon-là, elle touche à la vision justement. On avait parlé avant. Peut-être que c'est ça que ça veut dire. Je ne suis pas sûr, mais la remarque de Mochette est, semble-t-il, importante et lumineuse. C'est vrai que c'est une des façons de transmettre. Peut-être que c'est la seule façon de transmettre une Torah de Marshava. Jusque-là, j'avais pensé. J'ai pensé, il me semble que c'est un fait d'expérience, que quand on est longtemps auprès d'un maître, alors c'est vrai, on le voit vivre, etc., mais à la limite, j'ai l'impression que certaines fois, la transmission de l'enseignement du maître ne passe pas par la parole. Des fois, j'ai l'impression que c'est comme si il induisait directement dans ma pensée ce qu'il voulait transmettre. J'ai l'impression que ça ne passait pas par la parole. De temps en temps, c'était comme ça, évidemment. Je ne suis pas sûr de cette histoire-là, mais j'ai tendance à penser comme ça aussi. Mais bon, c'est plus clair, plus évident avec le Shimusha. Ce n'est pas contradictoire du tout, d'ailleurs. Donc, la Torah de Rabbi Akiva, c'était une Torah probable. Aujourd'hui, je pense que c'était une Torah, ce qu'elle avait de spécifique, la Torah de Rabbi Akiva, c'était ça. C'était que ça se transmettait d'une autre manière. Et comme ça, on comprend bien l'esprit le plus fort, celui qui est considéré comme celui qui était plus fort que tous, Rabbi Meir. Rabbi Meir pouvait démontrer tout et son contraire, etc. Bon, ça, c'est peut-être pas si difficile que ça, semble-t-il. Pour être au Sanhedrin, il fallait être capable de le faire. Donc, peut-être tout le monde pouvait faire ça. Mais on disait que la halakha n'est jamais comme lui, comme Rabbi Meir, parce que il peut tout démontrer et son contraire. Donc, on ne sait pas si ce qu'il dit est vrai. Donc, il est tellement fort. Rabbi Meir, quand il était élève, il est allé à la yeshiva chez Rabbi Akiva une première fois. Il n'a rien compris. Si on dit qu'effectivement il ne comprenait pas, parce que lui était un parfait élève d'un enseignement par la parole, quand il s'est agi d'aller étudier chez Rabbi Akiva où l'enseignement n'était pas que de la parole, il n'a rien compris. Il est allé d'abord chez Rabbi Ishmael, il s'est rempli de Torah, et probablement il a vieilli, il a mûri, etc. Ensuite, il est retourné chez Rabbi Akiva. À ce moment-là, il a commencé à comprendre quelque chose. Ce n'est pas d'avoir entendu Rabbi Ishmael qu'il a compris quelque chose. Parce que Rabbi Ishmael, c'était le contemporain de Rabbi Akiva, mais ils ne sont jamais sur la même longueur d'onde. Donc, ce n'est pas là-bas qu'il a appris les choses. Il n'a pas appris là-bas comment écouter Rabbi Akiva. Ou peut-être que si, mais vraiment par... en regardant le contraire, quoi. Donc c'est possible que effectivement cet enseignement de Rabbi Akiva était un enseignement essentiellement presque visuel, si vous voulez, au sens il fallait regarder, il fallait se mettre en phase. Je ne dis pas qu'il parlait jamais, certainement il parlait. Et si on dit comme cela, alors on comprend peut-être pourquoi Rabbi Akiva n'a rien dit à ses élèves. Il a vu ses élèves se fourvoyer. Il a vu 24 000 élèves mourir. On ne nous rapporte pas qu'il ait dit quoi que ce soit. Parce que cet enseignement de Marchava, c'est l'enseignement, ce qu'on appelle le din, c'est la rigueur, c'est... Donc, si tu n'as pas compris, je ne peux rien faire pour toi. Quand on arrivait déjà à la yeshiva chez Rabbi Akiva, c'était de la crème qui venait là-bas. Et cette chose-là de ne pas se donner de poids les uns aux autres, qui n'avait pas compris, peut-être Rabbi Akiva a compris. Je n'ai rien à vous dire. Si vous n'avez pas compris ça, ça ne commence pas. Alors on voit que quand Rabbi Yossi Aglili lui a fait sa remarque, il a accepté l'enseignement de Rabbi Yossi Aglili. Il a été d'accord de dire que les deux trônes sont les trônes divins, mais l'un pour juger, pour la justice, et l'autre pour la tzedaka. Je vous rappelle, il disait avant qu'un trône était pour Hachem et l'autre trône était pour David Hamelech. Alors on lui a dit, mais tu es en train de mettre sur le même plan la présence divine et un homme. David Hamelech, c'est un scandale. Pourquoi c'était un scandale pour lui? Probablement parce que Rabbi Akiva comprenait que il faut savoir que Hachem dans le monde, il se dévoile. Il se donne à voir chez les hommes. Il donne des modèles que les hommes peuvent voir et comprendre. C'est pas que David était Hachem. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que David était pétri de tout ce qu'Hachem voulait, enfin veut, que l'homme soit. Et donc, d'une certaine manière, si je vérifie, si j'enlève l'ambiguïté, si on n'avait eu qu'un trône de David, c'est ambigu, on aurait pu prendre David pour la divinité. Mais si on met le trône d'Hachem et qu'on met le trône de David à côté, même à la même hauteur, tout le monde comprend que David n'est pas Hachem, mais qu'il est ce qu'Hachem veut que nous, il veut que nous puissions apprendre. Et donc s'approcher de David, c'était de s'approcher, c'est comme ça que nous pouvons nous approcher d'Hachem. Et c'est assez intéressant parce que la Gemara nous rapporte que David Ameler, quand il jugeait et condamnait celui qui devait être condamné, bon, si vous voulez, qu'il condamnait quelqu'un à une amende ou à payer des dommages, etc. Et si la personne avait des difficultés, il lui faisait la tzedaka. Il lui donnait l'argent pour payer l'amende ou les dommages. Donc lui, David, il faisait à la fois la justice et la tzedaka. Ces deux choses qui sont ce que Rabbi Yossi Haglili disait être les deux trônes en question. Ça veut dire quoi? Si on dit ça, ça veut dire quoi? Hachem, il fait à la fois la justice et la tzedaka. David Ameler aussi, c'est marqué dans la Gemara. Ben, vous comprenez? David Ameler représente ce que nous pouvons apprendre, mais quand on dit qu'Hachem fait la justice et la tzedaka, évidemment, je veux dire, et qu'est-ce que je peux apprendre de là? Pour apprendre, vraiment, j'ai besoin de voir quelqu'un devant moi qui le fait. J'ai besoin de voir que c'est humainement faisable. Les modèles que les Chachamim nous donnent, les modèles que la Torah donne, ce n'est pas des abstractions. La Torah de Rabbi Akiva, elle peut être très abstraite. Elle est dans le monde de la Marshava. Mais maintenant, si tu veux prendre un modèle, il faut que le modèle soit humain. Comment tu veux prendre un modèle sur quelque chose qui n'est pas humain? Et pour que tu ne prennes pas le modèle pour le modèle, au sens de pour la divinité, alors je te mets la divinité à côté. Tu ne peux pas te tromper, la divinité elle est là. Et ça c'est un modèle. Ah, il est sur le même plan? Oui, bien sûr, parce que c'est de ça que je veux te montrer. Je veux te montrer que c'est ça que je veux. C'est pas Hachem que je vois évidemment sur le trône. Donc là, il était d'accord de descendre. Mais après, quand on va dire non, c'est le trône et le marchepied, le repose-pied, etc. Qu'est-ce que ça sert à quoi? C'est quoi cette vision? Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu parles du divin, mais ce n'est pas très efficace. Mais Rabbi Elazar ben Azaria, il avait peur même de ça. Il avait peur. Il avait peur pourquoi? Parce que si tu dis qu'Hachem fait deux choses et est sur deux trônes différents, alors on est très près d'un dualisme. Il y aurait donc un dieu de la justice, qui siège sur ce trône-là, et un dieu de la tzedaka, qui siège sur cet autre trône. Trop dangereux. On ne peut pas permettre ni un modèle humain, si on veut, parce que, du coup ça remet la shrina à la hauteur de l'humain, ni un modèle qui pourrait laisser penser au dualisme. Il faut rester entièrement, c'est des trônes, donc il n'y a qu'Hachem et ça ne bouge pas. Le deuxième trône, c'est un truc pour mettre les pieds. Bon, c'est Rabbi Elazar ben Azaria, c'est pas n'importe qui. Mais on voit très bien, hein, que quand ils lui disent ne t'occupe pas de ces choses-là. Ça correspond exactement à la Torah de Rabbi Akiva. La Torah de Rabbi Akiva, c'est une Torah qui est tellement grande, qui est extraordinaire, mais c'est une Torah. C'est une Torah qui demande. Enfin, c'est une Torah qui demande pour se développer. Il faut être dans le monde d'après le Khurban. Dans le monde d'après la destruction du temple. Donc dans un monde dans lequel il y a un Chilul Hashem permanent, un monde dans lequel il y a une profanation du nom divin permanente. C'est profanation du nom divin que le temple d'Hashem soit détruit, que Israël, son peuple est en galoute, la Shrina est en galoute, c'est une profanation. Rabbi Akiva, il sait faire de cette destruction elle-même un cli, un moyen pour développer sa Torah. Moshe Rabbeinu ne supporte pas ça. Moshe Rabbeinu ne supporte pas, il ne supporte même pas qu'il y ait un Chilul Hashem chez les Égyptiens. Quand il dit à Hashem, quand Hashem dit je vais détruire les Bnei Israël à cause du veau d'or, il lui dit oui, les Égyptiens vont dire que c'est parce que, pourquoi tu les as détruits? Parce que tu es incapable de les amener. Tu as été capable de les sortir d'Égypte, mais tu n'as pas été capable de les amener en Eretz Israël comme tu l'avais promis. Et de dépit, en quelque sorte, tu les as tués. Tu as fait un Chilul Hashem. Chez qui? Les Égyptiens vont dire ça. Quelle importance que disent les Égyptiens? Moshe Rabbeinu dit, on peut dire que Moshe Rabbeinu a dit ça seulement. C'est un argument pour sauver le clan d'Israël devant Hashem. Mais on peut dire que ce qu'il dit, il le pense. Moshe Rabbeinu ne dit pas n'importe quoi. Je veux dire, même pour sauver le clan d'Israël, je ne pense pas qu'on doive dire qu'il dit quelque chose qu'il n'assume pas du tout. Non, il l'assume, c'est un Chilul Hashem. Moshe Rabbeinu, quand Hashem lui dit, je pardonne au clan d'Israël, mais je vais envoyer un malach qui va vous guider. Moshe Rabbeinu dit, si c'est comme ça, c'est pas toi directement, c'est un Chilul Hashem. Alors efface-moi. Je ne joue pas, tu peux m'enlever de ton monde. Donc Moshe Rabbeinu ne supporte pas de Chilul Hashem. Donc il ne peut pas comprendre, si vous voulez, la Torah de Rabbi Akiva. Il ne peut pas l'accepter non plus. Parce que c'est une Torah qui nécessite un Chilul Hashem. Pour être, c'est la Torah qui, pour son dévoilement, aura donc nécessité un épaississement du monde, un Chilul Hashem. Une obscurité plus grande pour que cette Torah-là, extrêmement fine, cette lumière très fine, très, bien sûr, plus faible, parce qu'on est dans le galout, pour une lumière faible, il faut beaucoup d'obscurité pour qu'on l'aperçoive. Si y a trop de lumière, on ne perçoit pas cette lumière faible. Ça, c'est Rabbi Akiva. Il en fait un clé, un instrument. Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu, non. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas. C'est un Chilul Hashem. C'est ce qu'Hachem lui montre. Et c'est quand il lui dit, tu vois, même la mort de Rabbi Akiva, même cette mort atroce, Rabbi Akiva, lui, il sait en faire quelque chose. Il en fait quelque chose. Les élèves lui disent, mais dis un mot et puis tu peux te libérer. Rabbi Akiva aurait très bien pu se libérer. Il dit, mais toute ma vie, j'ai espéré pouvoir accomplir Bechol Nafshecha, de toute ton âme, l'amour d'Hachem, de toute ton âme. Et maintenant que ça, j'ai rien fait pour, et maintenant que j'y suis, je ne le ferai pas. Donc, il fait quelque chose de cette situation insupportable. J'ai vu une lecture, c'est marqué Yatsa Nishmato Be'echad. On dit que au moment de mourir, Rabbi Akiva a dit le Shema et il est arrivé au dernier mot, Echad. À ce moment-là, son âme s'en est allée. Alors ils disent, Yatsa nishmato be'echad. Pas les rachaim. Il n'est pas mort à cause des rachaim. Il est mort parce que sa neshama, elle est partie avec cette conscience de Hachem Echad. Hachem Echad, que cette grandeur d'Hachem, cette unité, c'est le fait que Hachem, c'est tout, en fait. C'est apostrophe. Ouais. C'est le tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre en réalité qu'Hachem. Là, c'est un Hachama, hein, la colère à Hachem, si on peut parler comme ça. Elle est partie. Il n'est pas mort à cause d'eux. Il est mort par amour. Il y a encore un point qui est très important, je voulais encore dire ce soir. C'est, comme on a vu, Rabbi Akiva, effectivement, il vit après le Khurban, après la destruction. Le premier temple, déjà, c'est ce qui est l'essentiel. Après, c'est le deuxième, mais... Ce qui se passe, c'est que, du coup, la grande différence entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva, hein, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est l'homme du klal Israël. D'accord ? C'est la Chazal dit qu'il est shakul keneged kol Israël. Moshe Rabbeinu, il est à lui tout seul tout le klal Israël. Rabbi Akiva, en fait, c'est exactement le contraire. Le clan Israël est dans une situation de Chilul Hashem. Les étrangers ont le pouvoir en Eretz Israël, le Tamigdash est détruit, etc. La Avoda, le service divin de Rabbi Akiva dans cette situation-là, cette situation du Khurban, c'est de dévoiler à l'échelle individuelle, par sa Messirut Nefesh à lui, par son sacrifice, par le fait d'être prêt à tout pour Hachem, lui-même. Mais ça, c'est le dévoilement, en quelque sorte, à l'échelle individuelle. N'est-ce pas? On peut dire qu'avec le Khurban, avec la destruction du Beit HaMikdash, on a passé d'une échelle collective, si vous voulez, à une échelle individuelle. Quand on avait le Beit HaMikdash, prenez une situation comme celle de Yom Kippour. Yom Kippour, au temps du Beit HaMikdash, il y avait une personne qui faisait tout le travail. C'est le Kohen Gadol, il faisait tout le travail. Nous, on attendait que ça se passe. Après le Khurban, on n'a plus de Kohen Gadol. Donc, il n'y a personne qui représente le clan d'Israël dans sa totalité. Et du coup, chacun est obligé de s'occuper de lui-même. À tous les niveaux, en fait, le Khurban a développé cette prise de conscience que nous devons nous prendre chacun en main. Moshe Rabbeinu, lui, il fait le travail pour le clan d'Israël. Chaque fois que le clan d'Israël n'est pas à la hauteur, il intercède, il s'interpose, etc. C'est lui qui fait tout. Et ensuite, Kohen Gadol dans le... Mais après le Khurban, c'est fini. Il n'y a plus. Toute cette structure-là, hein, n'existe plus. Donc on est obligé de faire les choses par nous-mêmes. On peut dire que c'est une accession à la condition d'adulte, éventuellement, qu'auparavant on était pris en charge. Peut-être ça correspond à une situation d'enfant, peut-être plutôt, et que maintenant on est une situation plutôt d'adulte. Mais en fait, pourquoi est-ce que Hachem ne veut pas que la Torah soit donnée par Rabbi Akiva? Parce que ce n'est pas cette Torah-là qu'Hachem veut nous donner. c'est pas une Torah où il faut mourir. C'est une Torah de la vie, le Chayban. Alors c'est vrai que le dévoilement dans ces circonstances-là, il est possible lorsque la Torah gouverne, lorsque la Torah a le pouvoir, si on veut. En Galoute, c'est pas le cas. Dans la situation de Galoute, c'est pas le cas. Les tagim aussi, c'est quelque chose de très très frêle, très petit. C'est pas constitutif des lettres, comme on a dit. Et ça fait référence à ce dévoilement du type Rabbi Akiva, qui vient, ce dévoilement qui est lié avec la Messirut Nefesh Be'ahava, par amour, dans un moment où on est dans le galout de la Shrina, etc. Moshe Rabbeinu a bien compris la spécificité de la Avoda de Rabbi Akiva. Il a compris le fond, il était capable de comprendre ce que disait Rabbi Akiva. Mais il n'avait pas de lien avec cela, puisque le lien avec cela dépendait de la situation. Et la situation n'était pas, au temps de Moshe Rabbeinu, elle n'était pas telle que les choses pouvaient se dévoiler, comme on l'a dit. Moshe Rabbeinu, de ce point de vue-là, il est supérieur à Rabbi Akiva. Même si on a des textes, dans le texte marqué qu'il ne comprend pas, etc., Moshe Rabbeinu est plus haut que lui parce que Moshe Rabbeinu, c'est le clan d'Israël. Tandis que Rabbi Akiva, il a un guilouille, mais pratique, c'est un guilouille personnel, privé. C'est difficile de... Il a essayé d'être un maître pour 24 000, ça n'a pas marché. Pas obligatoirement de sa faute, mais sa Torah à lui est une Torah peut-être trop difficile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa Torah, elle ne peut venir que comme un complément, comme une forme de mise à jour régulière de la Torah telle qu'elle a été donnée par Moshe, enfin, à travers Moshe Rabbeinu. La Torah qu'Hachem voulait nous donner, c'est celle de Moshe Rabbeinu. Et ensuite, justement, il va venir quelqu'un qui va faire face au Khurban, qui va inventer une façon de faire, de vivre, après la destruction du Khurban, après la destruction du Beth Amikdash, qui va inventer, en théorie, la façon de faire façon de penser par exemple Rabbi Akiva va dire au Bnei Israël après le Khurban a priori Ashrechem Israël, soyez heureux Bnei Israël. Il parle de Yom Kippour, Lifnemi Atem Mitaharim, devant qui est-ce que vous vous purifiez? Lifne Hashem. Vous, vous êtes complètement désolé, il n'y a plus de Beth Amikdash, etc. Mais du coup, maintenant, vous êtes devant Hachem directement. Il n'y a même plus l'intermédiaire du Khurban, si on peut, du Beth Amikdash, pardon. Bien sûr, on ne peut pas se réjouir de cela. Mais il dit quand même, Hachem. Avant aussi, on se purifiait devant Hachem. Qu'est-ce qu'il nous dit de nouveau, là? Mais avant, vous aviez l'impression que ça passait par l'intermédiaire du travail du Kohen Gadol. Maintenant, ce sera direct. Il faut les deux. Il faut la Torah de Moshe. Et puis, il nous faut l'enseignement de Rabbi Akiva, qui est cet enseignement extraordinaire qui permet, enfin, qui exige de chacun d'aller au bout de lui-même, en fait, mais qui permet de survivre. Dans la version de la Torah de Moshe, et quand il n'y a plus de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on fait? on est un peu perdu. Il a fallu quelqu'un comme Rabbi Yochanan ben Zakkai pour fabriquer les institutions qui nous ont permis de survivre dans le galout. Il les a inventées littéralement. C'est ça que je voulais dire, c'est, me semble que c'est ça le côté divin qu'il y a dans la parole de Rabbi Akiva. En fait, c'est pas obligatoirement une parole, parce qu'on a vu, c'est plutôt la shtika, c'est plutôt, semble-t-il, un silence. On verra dans l'exposé de la semaine prochaine par le professeur Sahel, en quelque sorte, cette construction du silence. Il y a des questions. S'il n'y en a pas, ça va aussi bien. Non, il est un Ben Guérim, a priori. C'est, son père était un guerre, probablement. Chez Rabbeinu et Rabbi Akiva, ils ont ceci en commun qu'ils ont vécu 120 ans. Bien, alors merci.
Donc, comme vous l'avez annoncé, prochaine séance, mardi prochain, avec le professeur Sahel.